Et si l'école ? Une émission du groupe École des CMEA, présentée à tour de rôle par ses membres et aujourd'hui par Hélène.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième web radio des CMEA. Merci d'être à notre écoute et au vu des circonstances actuelles, nous sommes toujours à distance évidemment, puisque nous ne pouvons pas nous réunir. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième émission, nous sommes réunis autour de la chronique de novembre. Comment va-t-on rattraper tout le retard accumulé ? Donc, cette phrase très présente en salle de prof en temps normal s'est invitée partout depuis le mois de mars et l'arrivée de la pandémie. Dans la presse écrite traitant de l'école, une kyrielle d'articles se pose cette question. Pour preuve, un petit florilège de titres compilé entre le 20 août et le 10 septembre 2020 dans le soir. Rentrée scolaire, madame, on va devoir rattraper tous les travaux de la cinquième qu'on n'a pas fait. Rentrée scolaire, on peut maintenant rattraper le retard des élèves, assure Caroline Désir. Doit-on rattraper le retard ? Objectif tout mettre en œuvre pour rattraper le temps perdu, combler les lacunes et réduire les inégalités, le double défi de la rentrée. Rattraper les retards scolaires, premier défi de la rentrée. Alors, les chroniques mensuelles du groupe École sont disponibles sur le site des cmea.be, mais vous pouvez également vous y abonner en envoyant simplement un mail à l'adresse mail école@cmea.be. Donc, pour traiter du sujet, aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, c'est Sylvain Connac. Alors, Sylvain est professeur des écoles et instituteur pour les Belges, évidemment, à l'école coopérative Antoine Belard de Montpellier. Il est aussi enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Alors, Sylvain est aussi l'auteur de plusieurs livres, comme « Apprendre avec les pédagogies coopératives », Enseigner sans exclure, ou alors le dernier, Construire ensemble l'école d'après. Donc bonjour Sylvain.
Et bonjour à tout le monde.
Alors du côté des CMEA, nous avons Laura et Alain qui sont tous les deux membres du groupe École. Bonjour Laura, bonjour Alain.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Alors Alain est aussi en charge de la technique. Et on a aussi Catherine avec nous qui va s'occuper de vos questions sur le pad. Bonsoir Catherine.
Bonsoir à toutes et à tous.
Donc le pad est dès à présent disponible, donc n'hésitez pas à y poser vos questions. Le lien se trouve en dessous du lien de la web radio sur le site des cmea.be. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec la première question. Donc, le point de départ de cette émission, c'est la chronique, vous l'avez entendu. Comment va-t-on rattraper tout le retard accumulé ? Donc Sylvain, qu'en as-tu pensé de cette chronique ?
Ah, moi, je trouvais que c'était une super chronique parce qu'effectivement, en apparence, la période que l'on traverse va être difficile du point de vue de tous les apprentissages que les élèves ne vont pas pouvoir faire de manière normale à l'école. Donc ça, c'est de l'apparence. Mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et celui qui, à ma connaissance, a le mieux décrit ce phénomène, c'est un pédagogue brésilien qui a principalement travaillé avec des adultes analphabètes, qui s'appelle Paulo Freire. Et Paulo Freire, il parlait, pour désigner ses conceptions éducatives qui consistaient justement à engranger des savoirs pour ne pas prendre trop de retard, il appelait ça une pédagogie bancaire. Et il assimilait le fait de s'approprier des savoirs comme le fait d'aller déposer des billets, des billets à la banque, d'où ce nom-là. Et il a expliqué que si on considère que les savoirs se collectent comme on dépose des billets à la banque, ça crée une forme d'inhibition chez les élèves qui conduit à une perte de créativité. Ça crée ce qu'il appelait une sorte d'anesthésie des élèves qui les rend inertes. Donc effectivement, cette conception-là du retard scolaire ou de l'avance scolaire, qui est quelque chose qui a été inventé par l'école quand on dit qu'un élève est à l'heure ou est en retard ou est en avance, c'est bien qu'on a fixé un rythme et que ce rythme n'est pas forcément adapté à tous les élèves. Donc effectivement, la période modifie considérablement ce que les élèves vont pouvoir apprendre à l'école, mais apprendre, ça ne peut pas être assimilé à cette pédagogie bancaire dont parlait Paulo Freire.
Merci Sylvain. Et alors Laura, toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle de retard scolaire ? Est-ce que de retard à rattraper ?
Oui, bah, pour moi, il y a plusieurs questions dans la question. C'est en fait déjà de quel retard est-ce qu'on parle? Alors, dans les titres que tu as évoqués de journaux, etc., on était clairement sur les apprentissages scolaires. Alors, c'est assez interpellant puisque les constats du premier confinement, c'était que l'école manquait cruellement aux enfants parce qu'il manquait cruellement de contact et qu'on a pris conscience tout d'un coup du rôle que l'école jouait dans les relations sociales des enfants et de l'importance que c'était. Et c'est comme si le 1er septembre, toutes ces questions avaient disparu et qu'on mettait ça de côté pour se centrer sur les apprentissages scolaires. Et en même temps, c'est une question qui est déjà un peu tout le temps présente. Alors, la situation actuelle a exacerbé ça. Mais c'est quand même une question qui me semble aussi récurrente sur tiens, il faut qu'on prépare les enfants l'année prochaine. Sylvain parlait d'un rythme qui était imposé, donné. C'est tout à fait juste. Du coup, en fait, on ne peut être qu'en retard là maintenant. Le constat, c'est celui-là. C'est que tout le monde va être en retard parce qu'il y a des échéances. Parce qu'on se préoccupe sans doute de l'année prochaine, de qu'est-ce qu'il va devenir des enfants qui ont passé l'année supérieure et qui ne seront pas dans les temps. Et donc ça, c'est une vraie question fondamentale pour moi aujourd'hui sur l'école, c'est cette question du rythme et cette question de comment est-ce qu'elle peut reconnaître chaque enfant comme unique comme des individus uniques, alors ensemble dans une collectivité, mais si on reconnaît ça, en fait, on ne peut pas continuer à être sur ce rythme qui est identique pour tous les enfants. Et donc, en fait, déjà, ils étaient déjà un petit peu en retard, en fait, pour la plupart déjà avant. C'est juste que maintenant, ils le sont encore plus et on ne pourra pas rattraper ça. Et ce serait peut-être intéressant aussi et je comprends tout à fait cette préoccupation-là que les enseignants et les enseignantes ont. Elle est tout à fait légitime. Ils ont aussi des échéances, il y a les évaluations externes, enfin voilà, il y a plein, plein de facteurs qui jouent. Mais ce serait peut-être aussi intéressant de mettre le focus sur les relations à ce moment-là, par rapport au retard, qui était vraiment. Cette question des relations était tellement importante, au mois d'avril, au mois de mai, et là, elle n'existe plus non plus. Donc, voilà pour moi.
Oui, donc ne pas se braquer sur les retards accumulés au niveau du programme, mais regarder aussi au niveau des relations humaines, ce qui se passe dans l'école. Et Alain, est-ce que toi, tu as une réaction par rapport à cette chronique?
Oui, moi, la pédagogie bancaire évoquée par Sylvain me parle parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du double discours des médias. Alors, en Belgique, on a eu une pétition des pédiatres pour que les écoles rouvrent, pour que, oui, où on parlait de bien-être des enfants et de besoins sociaux des enfants, et que l'école avait ce rôle-là. Et donc, les enseignants, ils sont rentrés à l'école avec cette demande-là, ce discours-là derrière. Donc, il faut que l'école puisse être bienveillante, qu'elle puisse remettre du lien entre les personnes, mais en même temps avec ce discours continuel de tous les acteurs des médias, donc ou de l'éducation, parce que jusqu'à la ministre, ça a été le mot rattrapé a été utilisé à toutes les sauces, dans tous les sens. Et donc c'est double pression de se dire, je dois refaire le lien avec les enfants, je dois, leur permettre de se retrouver, et on se rend compte en tant qu'adulte que cette période nous impacte aussi dans notre capacité de lecture, dans notre capacité de concentration à certains moments. Et les enfants, eux, par contre, on va leur demander d'aller plus vite et d'en faire encore plus pendant cette période-ci. Donc voilà. C'est un peu ce que m'évoquait la chronique en la relisant.
Oui.
De manière générale, n'hésitez pas à réagir, hein, Sylvain, Laura, on peut aussi.
Oui, moi ce que je me dis, c'est que le fait de ne pas dramatiser le retard éventuel, potentiel que les élèves pourront avoir accumulé pendant cette période, ça signifie pas une négation des savoirs scolaires. Les savoirs et la culture sont au cœur de l'école. Et la fonction, un peu l'utilité sociale d'une école, c'est de donner la possibilité à toute une jeunesse de s'approprier la culture écrite d'une civilisation. Donc les savoirs et la culture sont au cœur même du projet de l'école. Moi, j'aime bien cette image-là de j'explique à des enfants hein, qui posent la question, mais au final, ça sert à quoi d'apprendre ce que l'école veut nous enseigner? Et moi, je leur dis, c'est un peu comme si vous aviez le super pouvoir de monter sur les épaules d'un géant. Bon, c'est pas de moi cette métaphore, hein. Mais c'est vrai que c'est super quand on peut monter sur les épaules, quand on est dans une foule et qu'on monte sur les épaules d'un géant, surtout quand on va à un concert d'un musicien qu'on aime bien, parce qu'on voit beaucoup mieux les choses. Et en fait, c'est ça qu'apportent les savoirs à l'école. C'est le fait de pouvoir s'approprier ce que d'autres avant nous ont construit et qui nous permet de mieux comprendre et de mieux voir le monde dans lequel on est et voir beaucoup plus facilement y trouver sa place et y agir pour le modifier s'il y a des choses qui nous dérangent. Donc c'est voilà, le fait de concevoir que ça ne serait pas véritablement un problème que des enfants aient accumulé ce soi-disant retard scolaire, c'est pas du tout une négation des savoirs qui, de mon point de vue, sont fortement attachés à l'école. Alors après ces dernières décennies, on parle beaucoup, je sais pas en Belgique, mais en France, on parle beaucoup des soft skills. Alors c'est difficile de les traduire, hein, mais les compétences douces, ce qu'on pourrait appeler aussi des compétences psychosociales. Alors il y en a beaucoup qui sont de plus en plus importantes parce que quand on est adulte, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans des associations, que ce soit dans le monde du travail, on a par exemple de plus en plus besoin de savoir travailler avec d'autres, de savoir rentrer dans du conflit sans que des désaccords avec des personnes se transforment progressivement en des colères qui nous empêchent de garder une maîtrise de nous-mêmes. Le fait de comprendre l'importance du soutien mutuel, de la solidarité, de la générosité, voilà, tout ça, ce sont des contenus d'apprentissage qui sont de plus en plus encouragés par l'école et qui ne sont pas directement associés à des savoirs que l'on peut empiler comme frère en parle.
Oui, et qui me semble aussi... entraîner ces capacités-là dont tu parles, d'être en relation, d'être avec les autres, ça, c'est quelque chose qui doit se cultiver tous les jours, tout le temps, pour que quand on est adulte et qu'on se retrouve avec d'autres, on puisse mobiliser ça. On ne peut pas du jour au lendemain devenir empathique ou du jour au lendemain laisser les autres aller au bout de leur idée et réagir de manière constructive. Ça, c'est quelque chose qui doit se cultiver et travailler dès le début. Apprendre, je sais pas moi, les algorithmes et tout ça, on peut le faire de manière un peu plus rapide et le mobiliser au moment où on en aura besoin. Donc, oui, je trouve que c'est assez juste ce que tu amènes et en même temps tellement important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que ça a été autant reconnu, en tout cas chez nous, au printemps. Et puis, ça n'existe plus là maintenant à la rentrée, quoi.
Après, pendant le confinement, là, j'ai eu la chance de pouvoir faire des entretiens de recherche avec des lycéens qui étaient complètement confinés. Et alors, ça m'a beaucoup intéressé pour découvrir un petit peu la manière dont ils vivaient ces journées-là particulières. Et je me souviens, ça c'est pour l'anecdote, on avait décidé de leur poser la question à quelle heure ils se levaient le matin. Et ce qui nous a étonnés, c'est qu'en moyenne, les jeunes qu'on a interrogés, donc dans un lycée en banlieue parisienne, se levaient à 15 heures, c'est-à-dire au milieu de l'après-midi. Et ils passaient l'essentiel de leur journée en pleine nuit. Alors on a été très étonnés par cet élément-là. Et on leur a posé la question, on leur a dit « mais c'est que vous ne travaillez pas ?» Ils disent « mais non, c'est que tout simplement la nuit, c'est là où il y a le plus de jeunes qui sont connectés. Et donc c'est le moment où on peut le plus... obtenir des informations par rapport au travail que les profs nous envoient. Et oui, effectivement, il n'y a pas eu ou peu eu d'école pendant ces périodes de confinement, mais c'est pas vrai que les jeunes n'ont pas travaillé de la même manière que c'est pas vrai que les enseignants n'ont pas fourni du travail aux élèves. Moi, j'ai été particulièrement surpris du nombre d'élèves qui ont travaillé, voire même qui se sont astreints à respecter les volumes horaires de leur emploi du temps ordinaire.
Oui, tout à fait. Et alors, effectivement, ces compétences douces, comme on pourrait les appeler, Elles sont très importantes et peut-être de plus en plus importantes dans la société. Mais alors, comment expliquer que cette notion de retard dans les apprentissages à l'école, elle prend une place si importante chez les professionnels de l'éducation?
Ouais, moi, mon hypothèse, mais elle n'est pas très étayée, c'est qu'on a véritablement jamais réussi le passage à une éducation alternative qui soit reconnue et acceptée par beaucoup. On est toujours dans des conceptions un peu exotiques de la pédagogie. La pédagogie dominante, c'est celle de l'enseignement simultané. C'est celle où on considère un petit peu l'enseignant comme le prêtre de jadis, qui était celui par lequel la voix de Dieu passait. Alors c'est sûr que les enseignants, c'est pas eux qui vont faire passer une quelconque voix divine, c'est pas ça. Mais ces conceptions très anciennes, on en subit toujours l'héritage. Et mon idée, c'est qu'on est en train de construire des pédagogies qui seront beaucoup plus humaines en termes de conception à la fois des singularités et de l'importance des collectifs, mais on n'y est pas encore véritablement arrivé. Je peux donner un exemple. Moi, je travaille en tant que chercheur sur les pédagogies de la coopération. Et une des modalités de la coopération, c'est le travail en groupe. Et il y a plein d'enseignants qui ont la gentillesse de m'accueillir et qui organisent, parce que c'est fortement encouragé et motivé, qui organisent du travail en groupe avec les élèves. Et quand je fais des entretiens avec leurs élèves ou avec les enseignants et que je pose cette question simple, pourquoi tu as travaillé en groupe? Les réponses sont assez rares. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves ne savent pas répondre à cette question, ou certains élèves répondent communément, c'est pour apprendre à travailler avec d'autres. Mais là où il y a un problème, c'est que quand je pose cette même question à l'enseignant, c'est pas pour apprendre à travailler avec d'autres qui les a fait bosser en groupe. C'est surtout parce qu'ils pensent que les interactions sociales vont être utiles pour s'approprier les savoirs scolaires. Et donc il y a des formes de malentendus un petit peu partout dans cette période un petit peu hybride d'évolution des pédagogies, qui fait qu'on n'est plus trop dans des pédagogies un petit peu impositives où le savoir ne vient que par la parole de l'enseignant. On n'est pas du tout dans des pédagogies non interventionnistes où on laisse faire complètement des enfants rois. On est dans un entre-deux qui est en train de se chercher et qui, de mon point de vue, dans 20 ou 30 ans, si on ne rate pas cette période-là, aboutira à des pédagogies bien plus solides et bien plus intéressantes.
D'accord, merci. Merci Sylvain. Alain, tu veux réagir par rapport à ça?
Je voulais réagir par rapport à Sylvain, par rapport à son expérience de classe multi-âge CP, CM2, parce que on est vraiment dans l'exemple de quelque chose qui est ce que moi j'aime bien appeler le mythe de la classe homogène, où il n'y a aucun enseignant qui n'a jamais vu une classe qui est exactement au même niveau, sans retard ou sans avance dans la classe. Mais malgré tout, on est forcément dans ce mythe et dans le fait d'être... Et du coup, quand on est face à une classe homogène, ben on y revient. Je partage un petit truc que moi j'ai vécu. J'ai fait 8 ans dans une classe... multi-âge de 3 années, et puis je me suis retrouvé dans une classe homogène et je me suis surpris moi-même à refaire des choses où je faisais la même chose pour les 24 enfants que j'avais face à moi, en sachant pertinemment que les 24 n'en étaient pas au même niveau en 5e primaire, donc en l'équivalent de un CM2.
Ouais, effectivement, un des intérêts des structures très hétérogènes, dont les classes multi-âge, c'est que ça contraint les adultes que nous sommes à ne pas penser les groupes comme étant homogènes. Et ça renvoie, quand on aurait, c'est pour rigoler que je dis ça, mais quand on aurait des pulsions d'enseigner, où on veut faire une leçon à tous les enfants, quand on a en face de nous un groupe qui est profondément hétérogène, en quelques minutes on s'arrête parce qu'on se rend compte qu'on ne parle qu'à 3 ou 4 d'entre eux, et que les autres soit s'ennuient, soit sont passés à autre chose. C'est pour ça que cette histoire de retard scolaire, c'est oui, elle peut être importante dans les images un peu classiques de l'école, mais c'est loin d'être la notion centrale quand on pense les pédagogies. Par exemple, moi, j'attribue beaucoup plus d'importance à la notion de sentiment d'efficacité personnelle ou à la lutte contre ce que Martin Seligman appelait la résignation acquise, c'est-à-dire le fait d'arriver à se contraindre par des expériences traumatiques à l'école qu'on n'est pas fait pour l'école. Et ça, c'est terrible, en fait, parce que dès lors que on est convaincu, par exemple, qu'on est nul en maths, on se crée une sorte de privilège où on est dispensé à vie de faire des mathématiques. Parce que justement, de la même manière qu'on est brun, qu'on porte des lunettes, qu'on est petit ou qu'on est grand, on est aussi nul en maths. Et le problème, c'est que ce privilège-là, il empêche d'essayer de développer des apprentissages en mathématiques, et donc c'est sûr qu'on ne pourra jamais progresser dans ce domaine-là. Donc moi, j'accorde beaucoup plus d'importance en pédagogie au fait d'entretenir chez les enfants le sentiment de compétence, le fait qu'ils se sentent capables d'y arriver, plutôt que d'insister sur le fait « t'es à l'heure, t'es pas à l'heure, t'as du retard ou t'es en avance », qui me semble profondément secondaire dans l'encouragement des enfants à accepter d'essayer de prendre le risque d'apprendre.
Et pour moi, ça rejoint aussi des questions alors de la manière dont l'école évalue, en fait, où ce qui compte, c'est l'instant T et ce que les enfants vont pouvoir en rendre, qu'ils aient travaillé 1 heure, 2 heures, 3 jours, 10 minutes, c'est ça qui va compter. Et à aucun moment l'évaluation ne reconnaît un travail, un processus, et d'autant plus qu'elle s'adresse à tout le monde à un instant T sur la même chose. Et donc pour moi, qui du coup nie vraiment les individualités et les différences, et aussi les différences de rythme, et donc de penser sa classe comme quelque chose d'homogène, en fait. Or, c'est faux. Et du coup, en fait, on ne peut être qu'en retard tout le temps. C'est juste que là, pour le moment, si on est sur ce modèle-là, effectivement, on est plus en retard. Et je pense aussi que ce qui joue là-dedans, c'est les questions de programme qui sont à l'œuvre, en tout cas chez nous, sur le fait qu'il y a aussi la pression. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais déjà, ça existe en temps normal de « Ah oui, et s'ils ne sont pas prêts pour l'année prochaine, et s'ils ne sont pas prêts pour l'année d'après, et s'ils ne sont pas prêts pour leur vie ?» On se préoccupe toujours de la suite, en fait, et pas de l'ici et maintenant. Pour le moment, je pense que c'est encore pire, en fait. Il y a cette pression-là qui s'ajoute à tout le reste, de comment on va faire pour qu'ils soient là, comme je les rends chaque année à mon collègue ou ma collègue suivant. Et donc ça, c'est aussi une vraie question, de se dire, tiens, si on est toujours après, en fait, on ne peut pas être là maintenant avec eux. Si on se préoccupe, la crèche se préoccupe de l'école maternelle, que le maternel du primaire, le primaire du secondaire, le secondaire des études supérieures et les études supérieures de la vraie vie, on est toujours en trop loin de toute façon.
Oui, cette notion de retard, elle est assez subjective, en fait, finalement. Et du coup, ce que j'entends, c'est de laisser le temps à l'enfant, c'est aux choses qui se passent maintenant, effectivement. Est-ce que nous pouvons nous tourner vers le pacte doucement? Est-ce qu'il y a des questions, Catherine?
Alors oui, il y a de nombreuses interventions sur le PAD. Avant de vous en lire quelques-unes, peut-être faire un petit coucou à nos copains et copines de France qui nous écoutent et qui sont bien présents sur le PAD également. Laurent nous signale au sujet de la référence que tu citais tout à l'heure, Sylvain, de Paolo Frère, qu'il y va y avoir un colloque à l'automne 2021 à Toulouse, à l'occasion du centenaire de sa naissance, et que les CMA français participent à l'organisation du colloque. Donc, on vous en reparlera très certainement. Alors, vous dire aussi qu'il y a des interventions qui sont parfois juste des affirmations. On a aussi des questions. Par exemple, Kim nous demande « Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas compenser le concept de retard au fait que l'école ne prépare plus nécessairement à des métiers et qu'il faut donc continuer à apprendre pour apprendre tranquillement à son rythme ?»
Oui, malheureusement, il faut espérer aussi que l'école prépare à l'insertion professionnelle. Mais c'est vrai, pas seulement, pour tout un tas de raisons. Moi, je pense que donner de l'importance à cette notion de retard reste un piège. un piège pour les familles, un piège pour les enseignants, un piège pour les élèves. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça me rappelle la différence qu'on fait en philosophie de l'éducation entre la notion de réussite scolaire et la notion de progrès. La réussite scolaire, elle est définie comme étant l'obtention d'un diplôme. Et malheureusement, tous les élèves n'arrivent pas à obtenir tous le diplôme qu'ils souhaitent, voire même un diplôme, pour des raisons qui sont liées à la singularité humaine, la diversité des situations. Si on fixe pour objectif une réussite pour tous les élèves, malheureusement, c'est inatteignable. Ce qui est intéressant en matière d'éducation, c'est non pas de viser l'utopie qui est la réussite de tous, mais plutôt le progrès de chacun. Parce que derrière la notion de progrès se cache une idée que j'ai vue, dont j'ai vu une phrase qui la résume bien sur la porte d'une salle de classe. Fais en sorte, en rentrant dans cette salle de classe, dans cette classe, que ce soir, quand tu en sortes, tu sois plus grand que quand tu y rentres le matin. Et cette idée de progrès, elle est là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en œuvre dans nos façons d'accompagner les enfants à la maison, dans les façons de les accompagner en tant qu'élèves à l'école, pour que chacun soit dans une dynamique de progrès continuelle. Parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'en raison d'un format scolaire, des enfants se découragent et s'arrêtent d'essayer d'apprendre. Même si on arrive à fabriquer quelques champions, s'il y a une majorité d'enfants qui s'arrêtent d'apprendre, c'est dramatique pour tout le monde, au niveau individuel, au niveau familial et au niveau culturel.
Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça ou on passe à la deuxième question?
Juste peut-être une chose, c'est que si on est sur le progrès, en fait, tout le monde réussit. Parce que, enfin, on ne peut pas ne rien apprendre, on ne peut pas ne pas avancer. Si l'environnement qui est proposé est favorable, il y aura toujours des découvertes et du progrès. Et donc, dans cette optique-là, personne n'est laissé sur le carreau.
Oui, avec moi, j'avais envie de réagir à ce que Sylvain amenait des compétences douces. La difficulté par rapport à votre système, c'est que nous, on est rentré dans un système où il y a des évaluations de fin de CM1, de CM2, enfin en sixième, il y a un examen pour l'ensemble de ce qui s'appelle la communauté française. Et donc, tous les enfants passent le même examen, le même jour, de façon centralisée. Et du coup, il y a une préparation à ça qui fait que tout temps passé à s'occuper de ses compétences douces, peut paraître du temps perdu quand on est comme enseignant stressé par le fait que les enfants doivent tous passer cet examen-là en fin de sixième et que ça met une pression folle sur les gens et du coup faisant aussi disparaître toute compétence qui n'est pas liée à cet examen-là, donc des temps artistiques, des temps de musique, des temps... Il n'y a pas que dans la relation que le fait de la présence d'examen qui s'appelle le CEB, mais il y en a aussi dans le secondaire. C'est pareil, ça fait disparaître toute une série de matières qui, comme elles ne sont pas sanctionnées par cet examen-là, disparaissent petit à petit de la vie de classe.
Oui, il y a une certaine priorisation au niveau des matières abordées. Est-ce qu'on aborde une deuxième question? Oui, Catherine?
Au sujet justement de cette notion de progrès dont vous venez de parler, Nathalie nous dit « le progrès c'est bien trop relatif, il y a tout de même des compétences à acquérir pour agir dans notre société ». Une autre personne dit aussi « le progrès, oui, mais à condition qu'on soit sur le bon chemin ». Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à en dire de cette notion de projet, progrès, pardon.
Oui, c'est là où les réflexions sur l'évaluation en éducation sont particulièrement intéressantes. Parce que l'évaluation, elle a trois fonctions en éducation. La première, c'est celle qu'utilisent les hommes et les femmes politiques, dans le sens où on fait passer, c'était très fort en France ça, c'est-à-dire on fait passer des évaluations standardisées aux élèves pour justifier des choix relatifs à une politique éducative, pour faire croire qu'on est un bon ou une bonne ministre, par exemple. La deuxième fonction, c'est d'utiliser et de concevoir l'évaluation comme un instrument de sélection dans l'orientation professionnelle. Ce qui à un certain niveau d'avancée dans la scolarité peut s'entendre, mais pas pour des enfants en école primaire ou même en collège. Plus on amène haut un maximum d'élèves vers un maximum d'appropriation de la culture, mieux c'est pour toute une société. Et la troisième conception de l'évaluation me semble particulièrement intéressante, c'est celle qui consiste à la concevoir comme étant un outil d'accompagnement des apprentissages. Et en quoi les évaluations permettent de mieux apprendre? Simplement parce qu'elles activent la notion de rétroaction. On utilise peu ce terme chez les francophones de rétroaction, on parle plutôt de feedback. Et le fait de se servir de l'évaluation comme un moment qui informe l'élève de ce qu'il a réussi et de ce sur quoi il s'est trompé, c'est lui donner davantage de chances pour comprendre la nature de ses erreurs et continuer à faire des efforts d'apprendre sans s'arrêter. Alors, après, il ne suffit pas de concevoir la rétroaction pour que de suite les élèves soient motivés pour apprendre. Il y a besoin aussi que les adultes arrivent à mettre à disposition des élèves un certain nombre d'outils, donc pédagogiques, qui leur donnent des repères à courte échéance, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle des progressions d'apprentissage. Ce sont des listes d'items qui sont fournis aux élèves et que peuvent utiliser les familles et qui reprennent l'ensemble de ce que les élèves ont besoin d'apprendre à l'étape scolaire dans laquelle ils se trouvent. Et donc la notion de progrès se détermine à partir de ces progressions d'apprentissage. Progresser, ça veut dire valider au fur et à mesure de plus en plus d'items qui se trouvent dans ces documents. Alors, il y a même des chercheurs, je pense notamment à Britt Marie-Barth, qui décomposent selon des items des niveaux d'appropriation. Par exemple, le fait de réciter une leçon, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible que d'arriver à mettre en place un projet qui fait appel aux notions relatives à ce savoir. Et donc, on peut créer des échelles de validation d'items qui aussi médiatise et symbolise les différents niveaux de progrès que les élèves vont pouvoir constater. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça active une forme de spirale vertueuse, dans le sens où des élèves qui réussissent sont réconfortés dans les efforts qu'ils ont fournis pour réussir et donc se retrouvent encore plus motivés pour continuer à fournir d'autres efforts.
Une autre réaction ? Non, Laura peut-être ou... Non. Ça nous amène à notre interlude musical qui porte très bien son nom puisqu'il s'appelle Laissez-moi le temps et c'est des ouves qui ont fait cette musique. Évidemment, c'est une musique qui est en libre accès. On se retrouve après. Thank you. Donc j'espérais pour vous que ce petit interlude musical vous aura permis de prendre un petit peu de temps. Et donc nous allons directement passer à la question suivante qui est comment peut-on soutenir les professionnels ou les parents à pouvoir relativiser ce fameux retard et comment les aider à ne pas subir le stress de tout ce battage médiatique. Alain, est-ce que tu aurais envie de réagir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut soutenir
Mais voilà, au niveau des parents, ça a quand même été une période particulièrement impliquante quand on se retrouvait en confinement et qu'il fallait aider les enfants. Et dans toute cette notion où on est... Où il y a aussi une culpabilité de se dire est-ce que mon enfant ne prend pas du retard dans cette période? Et donc, il y a le fait de comment est-ce que je vais pouvoir l'aider. Et on a tous envie de pouvoir aider nos enfants, mais c'est comment le faire alors que je ne suis pas forcément enseignant, que je ne suis pas. Et que je ne. Et que c'est pas. Voilà, qu'il y a d'autres rôles aussi à jouer à ce moment-là. Au niveau des enseignants aussi, je trouve que dans cette relation parent-enfant, ça a été particulièrement complexe de se retrouver à distance et de comment est-ce qu'on se transmet des informations, comment est-ce qu'on se transmet ce qui peut être fait par les enfants, ce qui peut et on reste dans cette période-là, même si les enfants sont revenus à l'école, dans le fait de pouvoir avoir ce qui se passe à l'école. Voilà, on peut avoir des enfants qui sont particulièrement taiseux sur ce qui se passe en classe. On est dans une difficulté de relation où on a, voilà, où il n'y a plus d'infos entre la famille et l'enseignement parce qu'on est sur du travail à distance et qu'on ne peut plus se voir. Moi j'ai ma fille dans une école où je rentre quotidiennement quand je viens l'amener. C'est plus le cas depuis le mois de mars et donc. Au niveau communication et avoir des infos, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, la situation est un peu exceptionnelle pour le moment. Il faut permettre effectivement aux parents et aux enseignants de pouvoir lâcher un peu du lest par rapport à ça. Sylvain, une réaction par rapport à cette question?
Oui, moi je suis toujours dans cette idée que le plus important, ça serait d'encourager la confiance en soi des enfants, de manière à ce qu'ils puissent trouver en eux suffisamment d'énergie pour prendre le risque d'apprendre et fournir les efforts nécessaires à cette activité-là. Ça me fait penser à une image que prenait un pédagogue français là, assez connu qui s'appelle Célestin Freinet et qui disait que un des principes de l'art d'éduquer, c'est de donner la possibilité à tous les enfants, à chaque enfant, de prendre la tête du peloton. C'est la métaphore au cycliste. Ça doit beaucoup vous parler à vous en tant que Belge qui êtes meilleur que nous, Français, dans le cyclisme. Mais cette idée-là, c'est s'assurer peut-être qu'à la fin de chaque journée, les enfants vont se coucher en étant certains d'une petite réussite, en ayant réussi quelqu'un. C'est ça qu'il entendait par cette idée de prendre la tête du peloton. Et parce que ça renvoie l'expérience et la certitude qu'on n'est pas nul. Et ça va donner cette force nécessaire pour résister à la difficulté. Pourquoi la difficulté est intéressante? Parce que s'il n'y a jamais de difficulté, les enfants naviguent dans ce qu'on appelle un rythme de croisière. C'est-à-dire qu'ils agissent, mais sans réellement apprendre, parce qu'ils ne vont pas travailler leurs limites et ce qu'ils savent déjà faire. Le problème, quand il y a trop de difficultés, c'est que ça peut basculer dans de l'échec. Et quand on se sent en échec, on se protège, c'est une stratégie de survie tout à fait naturelle, et on évite justement de se retrouver dans des configurations d'apprentissage. Donc le fait d'encourager chez les enfants le fait qu'ils soient pas nuls et qu'ils sont capables d'y arriver, c'est intéressant. On peut prendre des exemples dans le cadre de la famille, mais le fait de jouer avec les enfants, ça peut être propice à cette expérience de leur donner la possibilité de gagner, même contre des adultes. Le fait, en tant que papa, que maman, que frère, que sœur, de faire exprès, quand on joue avec un enfant, de le laisser gagner au moins une fois sur deux, alors qu'on aurait pu lamentablement l'écraser si on avait et utiliser nos pleines capacités en tant qu'adulte, c'est justement continuer à l'encourager, à penser qu'il est capable. Pareil à l'école, le fait de médiatiser les petites réussites des enfants, même si ça reste très modeste, en fait, ça a des conséquences décuplantes en termes de capacité pour entretenir cette volonté d'apprendre. Il y a cette image-là du cyclisme que j'emprunte à Freinet, mais il y en a une autre qu'on utilise beaucoup dans les travaux en éducation, c'est celle de la salade. Et souvent, on assimile le fait d'éduquer un enfant à la même activité que celle du jardinier qui essaye de faire pousser des salades. Si le jardinier regarde ses salades en voulant les faire repousser et en tirant les feuilles vers le haut, il risque une chose, c'est de les arracher, de les faire mourir. Et tout l'art du jardinier, bien évidemment qu'il ne tire pas les salades vers le haut pour les faire pousser, mais il entretient le milieu dans lequel il se trouve. Déjà, il fait en sorte que ce milieu soit suffisamment éclairé. Tous les jours, il apporte de l'eau, il enlève les limaces qui s'approchent de la salade. Et comme ça, la salade s'épanouit. C'est un peu cette idée-là, en fait, qui se cache derrière. Si on prend pas soin du milieu dans lequel les enfants se trouvent, on risque de les étioler. Et là, pour le coup, on a tout perdu, parce que une fois de plus, voilà, des enfants qui s'arrêtent d'essayer d'apprendre sont des enfants qui n'apprennent rien.
Oui, merci Sylvain. C'est très intéressant cette métaphore de la salade. Toi, Laura, est-ce que tu aurais des choses pour aider au soutien des professionnels et des parents dans cette période assez difficile?
Peut-être la première chose que j'aimerais leur dire, c'est que c'est vraiment précieux qu'ils aient pu retourner sur le terrain quand l'école a rouvert. Je pense une première chose à reconnaître, c'est de se dire on était vraiment plus dans une période où on savait encore peu de choses sur la situation sanitaire. Et quand les écoles ont rouvert, les enseignantes y sont allées. Ils étaient là à la rentrée. Et ça, c'est déjà une première chose, c'est de reconnaître que c'était vraiment important qu'ils y soient et qu'ils y soient toujours, et précieux pour les enfants que l'espace se réouvre et qu'ils puissent l'investir. Je comprends que ce soit vraiment compliqué en termes de pression pour tout le monde, que ce soit pour les parents, pour les enfants, pour les professionnels. L'école, c'est quand même pas n'importe quoi comme institution. Quasiment tout le monde y est passé, tout le monde a un avis, tout le monde a vécu des représentations. C'est un peu la clé, l'école, pour la réussite dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est normal que les parents soient, eux, stressés, mettent la pression sur l'école parce qu'il y a des vrais enjeux pour que leurs enfants réussissent. S'ils ne réussissent pas à l'école, que vont-ils faire de leur vie? Les diplômes, la scolarité, c'est quand même des accès importants à des métiers, à une vie professionnelle plus ou moins valorisée, plus ou moins intéressante. Il y a cette pression-là forcément des parents, et les parents en plus qui, quand ils parlent de leur enfant, parlent de l'enfant le plus important du monde, pas des autres. Et donc, il y a tous ces enjeux émotionnels et puis ces enjeux de vie que les parents posent sur leur enfant et donc répercutent sur l'école. Ça, c'est une première chose qu'il faut pouvoir identifier. Donc, il faut, me semble-t-il, ce serait intéressant que l'école puisse rassurer sur le fait que les enfants ne vont pas passer, vont continuer d'apprendre et découvrir des choses, alors avec les conditions que Sylvain vient de poser avant, qui sont vraiment importantes et nécessaires pour que les enfants puissent apprendre et que tous les enfants puissent apprendre. Ça, c'est une chose. Il y a les pressions qui sont mises sur les enseignants et les enseignantes, que ce soit de la part des directions, des PO, des inspections. Enfin, il y a des parents, il y a des pressions qui arrivent de toutes parts. Et donc, c'est compliqué. Après, moi, je reste convaincue que tout le monde fait de son mieux, en fait, et que peut-être que c'est ça que j'aurais envie de leur dire d'abord, c'est de reconnaître que dans la situation, et même avant, chacune fait de son mieux avec ce qu'il a et là où il en est. Après, ça n'empêche pas de continuer à travailler et de réfléchir et de changer. Mais c'est vrai que l'école, c'est vraiment un monstre sacré, c'est une institution, en tout cas, dans nos sociétés, et c'est aussi en plus compliqué d'y toucher, parce que les enseignants et les enseignantes, ils sont à l'école depuis qu'ils ont 2 ans et demi, en fait, et donc ils n'ont jamais quitté le circuit. Et donc c'est aussi peut-être à certains moments compliqué de faire un pas de côté, de prendre du recul, de réfléchir à ce qui s'y passe. Et ça, c'est aussi important de le reconnaître, que c'est pas non plus facile d'y réfléchir. Voilà, ça c'est un petit peu ce que moi j'avais envie de dire. Alors je sais pas si c'est très soutenant ce que je dis du coup et comment on peut relativiser. Ah oui, peut-être une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que moi si je devais repasser toutes les interros que j'ai eues dans ma scolarité, je crois que je perds tous mes diplômes. Et donc, je me dis, il y a des choses effectivement qui sont essentielles et qui sont vraiment importantes à apprendre et à connaître, qui sont des vrais outils pour pouvoir agir dans notre société et avoir du pouvoir. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres. C'est moins grave si on les oublie, c'est moins grave si on passe à côté et que parfois, qu'il faut s'autoriser peut-être à faire des choix. Voilà, et que de toute façon, on ne va pas tout retenir. Et ce n'est pas grave, c'est normal. On retient ce qui nous intéresse à l'instant où on le mobilise, où on l'apprend. Et donc, ça va continuer même dans cette période-ci. Donc, qui s'autorisent peut-être à faire des choix et à choisir leur bataille là maintenant et ce qui leur semble le plus pertinent pour chaque enfant qui est présent en classe. Voilà, et que oui, et qui pour moi, il y a cette question de confiance entre les professionnels et les parents qui peut-être aujourd'hui, comme l'exemple que tu as amené Alain, la rencontre se fait encore moins et donc la distance est encore plus grande pour pouvoir se comprendre et se parler et que les outils peut-être manquent encore plus maintenant pour pouvoir se rencontrer et se comprendre.
Oui, effectivement, cette notion de pouvoir se faire confiance et de se dire je fais de mon mieux avec ce qui m'est donné pour le moment, je pense que c'est très important pour continuer à avancer, autant pour les parents que pour les enseignants. Alors le temps passe, on va essayer de retourner voir du côté du PAD si on a encore quelques réactions. Je pense que vous êtes assez réactif. Catherine, tu as quelque chose à nous partager ?
Oui, ça continue d'interagir sur le PAD. Moi, j'avais envie peut-être de vous partager un témoignage d'Annick, qui est enseignante. Je vais vous le lire, ce sera plus simple. La situation complexe et inédite qui est la nôtre actuellement se prêtait pourtant à une réflexion collective sur notre rôle et nos pratiques d'enseignants. Au lieu de ça, dans mon école, secondaire en tout cas, nous nous sommes individuellement repliés sur nos matières, cherchant à optimaliser nos pratiques, pour qu'en apparence, du moins, les élèves semblent apprendre normalement. Et dans cet unique but, nous sommes revenus à un cours beaucoup plus transmissif. Nous étions pourtant dans des conditions idéales pour interroger notre posture et nos missions d'enseignants. Cette situation de crise, pour moi, a opéré un retour en arrière du point de vue pédagogique. Je me dis que c'est peut-être intéressant d'avoir l'avis de Sylvain sur ce témoignage. Merci Annick, en tout cas, de nous l'avoir partagé.
Sylvain, est-ce que ça te parle ?
Oui, mais moi, ça me fait penser au concept de masse critique, c'est-à-dire que c'est pas parce que la plupart des gens autour de nous sont pessimistes que nous, on est obligés de l'être. C'est pas parce que la plupart des personnes qui sont autour de nous pensent qu'on va pas y arriver et que c'était mieux avant qu'on n'a pas des raisons d'espérer en un monde qui sera meilleur. J'écoutais récemment là un résistant français célèbre qui est décédé, qui s'appelle Stéphane Hessel, et qui expliquait ça. Il disait qu'en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français étaient majoritairement vichistes. Et ce ne sont que quelques-uns qui sont rentrés en résistance et qui ont fait inverser la tendance fâcheuse qui se développait dans notre pays. Là, je pense que, bon, on n'est pas du tout, et heureusement, là, dans des configurations similaires. Et je pense qu'on est effectivement face à une situation qui nous est tombée dessus de manière extrêmement soudaine, extrêmement violente, massive, mais que voilà, on a une sorte d'injonction éthique à rester optimiste, surtout quand on travaille avec des enfants, qui, de par leur statut de jeunes, sont condamnés à l'optimisme, puisqu'ils sont là pour vivre. Voilà. Alors après, c'est peut-être un peu plus difficile pour nous, parce qu'on est moins dans cet état d'esprit où on ne l'est plus, où, voilà. Mais le fait de se donner comme principe déontologique l'optimisme, ça me semble profondément vecteur d'évolution positive pour la suite de la traversée de cette pandémie. Ça me fait penser aux travaux du plus grand pédagogue peut-être connu au niveau de la planète, qu'on connaît peu chez nous en Europe, mais qui s'appelle Ken Robinson. Et qui a écrit un ouvrage qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Alors ça fait rêver quand on écrit des bouquins. Hein. C'est donc Ken Robinson, il a écrit un ouvrage qui a pour titre en français L'élément. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élément? On pourrait appeler ça comme étant une passion, un hobby. Les Japonais, ils ont une traduction directe de l'élément, c'est ce qu'ils appellent un ikigai. Ce qu'ils appellent l'ikigai, c'est ce qui nous, notre raison de nous lever le matin et de trouver la journée qui s'annonce comme étant passionnante. Et la thèse développée par Robinson est de dire que le principe de l'éducation et de la scolarisation en particulier, c'est de donner la possibilité à chaque enfant de trouver son élément. C'est-à-dire de trouver le domaine d'activité dans lequel il excelle, dans lequel il prend plaisir et où les efforts ne sont pas reconnus comme étant pénibles. Et quels que soient les éléments d'adversité auxquels on devra faire face, il développe cette idée qui n'est que philosophique et théorique, qu'un enfant qui a trouvé son élément trouvera des raisons certaines et des appuis sûrs pour s'épanouir dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. On retrouve cette idée aussi dans ce que propose Claire Hébert-Suffrin quand elle parle des réseaux d'échanges réciproques de savoir, qui donnent la possibilité à chaque enfant dans un groupe d'être receveur d'activités, de savoir, mais d'être aussi, et surtout c'est là toute la richesse, d'être passeur et de devenir à son tour enseignant. Et c'est ces expériences-là où on est reconnu parce qu'on est titulaire d'un savoir qui est reconnu par d'autres, qui donne toute la pleine potentialité à ce que l'on est et à ce que l'on va devenir.
Oui, du coup, même quand on est en retard dans une matière, on peut pouvoir être celui qui aide et qui apprend dans une autre. Je me dis en t'écoutant aussi, moi je pense que la situation actuelle, la peur et l'anxiété qu'elle provoque, ramène forcément les enseignants à quelque chose qu'ils connaissent bien. Et ce qu'ils connaissent le mieux, en tout cas quand ils sont jeunes enseignants, c'est l'école qu'ils ont vécue, qui n'est pas forcément celle qu'on prône. Et en tout cas, en Belgique, il y a quand même beaucoup de... Voilà, l'enseignement n'est pas forcément... Le système n'est pas forcément bienveillant. Il n'est pas forcément optimiste, ce que tu amenais juste avant. Et donc, le côté optimiste, je me dis que ça permet d'oser. Si on se cale dans cette idée d'optimisme, on va malgré tout pouvoir oser des choses pour sa classe, même dans la situation actuelle, et ne pas rester dans la reproduction d'un schéma qu'on connaît bien et qu'on a vécu en fait.
En mars 2020, là, quand le confinement a commencé en France, là, moi je travaille avec des enseignants qui développent des pédagogies coopératives. Et on s'est dit au départ, c'est catastrophique pour la coopération, le fait qu'il n'y ait plus des enfants à l'école. Comment on va pouvoir coopérer? Un mois après, on s'est arrêté sur l'activité qu'on était en train de faire et on était en train d'écrire un article pour les cahiers pédagogiques où on décrivait comment, sans la présence des enfants à l'école, on pouvait quand même organiser de la coopération. C'est-à-dire que même quand ça paraît impossible, au final, c'est moins possible qu'à l'ordinaire, mais ça reste quand même extrêmement intéressant. Donc il y a toujours des... Et c'est ça la richesse de notre métier dans l'éducation. Il y a d'autres métiers de l'humain qui sont de cet ordre-là aussi. Mais on a jamais fini d'être étonné des incroyables potentialités qui s'ouvrent à nous.
Peut-être juste une chose, il me semble, c'est qu'on peut aussi identifier différents niveaux d'action et différents lieux de pouvoir qu'on peut avoir. Il y a effectivement l'école dans laquelle on est, l'équipe éducative avec laquelle on travaille, et puis aussi ce qu'on fait dans sa classe, la relation qu'on propose aux étudiants et aux étudiantes. Ça appartient à chacun, à chacune. Et après, on peut remonter dans les niveaux et jouer, bien entendu, pour pouvoir continuer à avancer dans un projet. Et à mon sens, on peut aussi reconnaître la difficulté que c'est d'être dans le secondaire, entre autres, avec des horaires très découpés, avec un nombre de classes qui peut parfois être très, très grand, avec juste 50 des classes qu'on ne voit que 50 minutes par semaine. Donc ça, c'est aussi des conditions qui, à mon sens, ne sont pas toujours soutenantes et ne sont pas aidantes quand on veut aussi mettre des projets en place et changer des choses. Peut-être ce qui peut aider, c'est à mon avis juste se poser par rapport à soi et de déjà identifier des leviers qu'on peut lever juste dans sa classe quand la porte est fermée. Et puis alors après de peut-être remonter comme ça les niveaux en faisant en sorte aussi de ne pas s'épuiser et de pouvoir cultiver alors cet optimisme et, et l'audace qu'on peut aussi avoir à oser changer les choses à son niveau.
Ceci nous amène tout doucement au terme de notre émission. En tout cas, je voulais vous remercier tous pour et toutes pour votre votre intervention ici, Sylvain, Laura, Alain et Catherine. Merci à vous les auditeurs d'avoir été à notre écoute. Et alors il me reste une chose à vous dire, continuez à cultiver vos salades en biodynamie et surtout aidons à nos enfants à trouver leur ikigai pour qu'ils puissent avancer dans leur vie. Alors pour aller un peu plus loin, s'il y en a qui le souhaitent, Catherine va vous partager sur le pad quelques références. Donc dedans vous pourrez retrouver notamment quelques lectures et quelques vidéos à regarder ou à lire pendant vos temps libres. Vous trouverez aussi le lien pour trouver cette chronique-ci ou toutes les autres chroniques qui ont déjà été publiées. Pour ça, il suffit d'aller sur le site www.semea.be. Vous pouvez aussi choisir de vous abonner à ces chroniques. Il suffit pour ça d'envoyer un mail à l'adresse mail école@semea.be. Vous trouverez aussi la possibilité de commander notre ouvrage qui référence 22 de nos chroniques qui ont déjà été publiées. Et sans oublier une campagne qui a été très intéressante au CMEA, c'est dutemps-extra.be. Voilà, donc tout ça vous pouvez retrouver sur le pad. Est-ce que Sylvain, tu aurais un dernier mot à nous partager ?
Le dernier mot, c'est déjà de vous remercier d'avoir organisé cet événement. Grâce à vous, j'ai passé un super moment à discuter avec vous et à ne pas me retrouver coincé tout seul dans mon coin. Ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, on est face à beaucoup de stress en ce moment. Mais le stress est une émotion quand même très particulière. C'est-à-dire que c'est une émotion ambivalente. Quelqu'un comme Pascal Toscani, par exemple, qui est une chercheure en neurosciences fonctionnelles sur la question des émotions, elle explique parfaitement bien que le stress peut être positif et négatif. Alors, lorsque le stress est négatif, c'est très problématique parce que on perd nos moyens, on pense qu'on va pas y arriver. Voilà, c'est très inhibant, en fait, comme émotion. Mais le stress peut aussi être positif. Et quand le stress est positif, et quand on aide des élèves à vivre le stress comme étant positif, par exemple, en organisant des discussions avec eux pour mettre les mots sur ce qu'ils vivent en tant qu'enfants dans cette situation, pour créer des projets, on leur donne la possibilité de devenir proactif et d'avoir une prise sur ce qui peut, en apparence, paraître complètement anxiogène. Donc voilà, le stress est présent, oui, de manière très forte, de manière très intense, oui, mais on peut toujours faire en sorte, au moins avec des enfants, et surtout avec des enfants et des adolescents, que ce stress soit l'occasion qu'ils puissent trouver une prise sur ces états de choses et qu'ils subliment cette situation pour y trouver une place.
Merci beaucoup pour ce moment et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine web radio qui aura lieu le 12 janvier. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.